Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drillon, Ise Tsikar et Aliette Ovin. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Ludovic Auger.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Nous ouvrons cette semaine une série sous Ecstasy, cap sur les marchés de la drogue aux frontières de la légalité. Demain, nous examinerons l'économie du deal en France. Mercredi, on s'intéressera au business du cannabis dans les pays qui autorisent son usage thérapeutique et récréatif. Jeudi, enfin, nous verrons comment les pouvoirs publics oscillent entre répression des consommateurs et accompagnement. Mais d'abord, notre premier épisode s'ouvre dans l'obscurité d'une fumerie d'opium. Grâce à l'opium, la joie pouvait être achetée pour un penny et transportée dans la poche d'un gilet. Voilà ce que relate l'écrivain anglais Thomas de Quincey dans ses Confessions, publiées en 1821. L'opium, dont le commerce provoquera deux affrontements entre le Royaume-Uni et la Chine au 19e siècle, obligeant l'Empire du Milieu à ouvrir ses ports aux bateaux étrangers. Nous allons retracer l'histoire éminemment économique des guerres de l'opium en compagnie de Xavier Paulès, maître de conférence à l'EHESS et auteur de cet ouvrage « L'opium, une passion chinoise » publié chez Payot. En fin d'émission, on retrouvera les nouvelles de l'écho présentées par Arjuna Andrade.
Attendez, lotus bleu, oui, je vois...
Comment, ça vous dit quelque chose, monsieur Wang?
Oui, il doit exister à Shanghai une fumerie d'opium qui porte ce nom-là.
Une fumerie d'opium?
Oui, maintenant, j'en suis sûr, c'est une fumerie.
Merci, monsieur Wang. Ce soir, à 10h, je serai au lotus bleu, moi aussi.
Monsieur, viens chercher le bonheur et l'oubli au lotus bleu. Par ici, monsieur, par ici. Nous avons le meilleur opium de toute la ville.
Oui, oui.
Voilà. Cette nappe dans le coin vous conviendra-t-elle?
Oui.
Bien. Votre première pipe est prête. Quand vous en désirez une seconde, vous n'aurez qu'à m'appeler. À tout à l'heure, monsieur. À tout à l'heure. Et beau rêve.
Bonjour Xavier Paulès.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on vient d'entendre un extrait de Tintin et le Lotus Bleu, une fiction radiophonique diffusée en 1962, 30 ans après l'apparition des premiers épisodes en noir et blanc dans un journal belge. Et en effet, dans les années 30, malgré les politiques mises en place au début du 20e siècle par la dynastie Qing pour lutter contre la consommation de drogue, l'opium appartient toujours à l'univers quotidien des Chinois.
Oui, tout à fait. La suppression de l'opium qui a été tentée par la dynastie de Qing n'est pas arrivé à sa conclusion, et dans les années 1920-1930 s'est produit un certain regain de la consommation d'opium, et donc le lotus bleu en fait écho à cette reprise.
À quelle époque l'opium a été introduit en Chine, Xavier Paulès, et quel est son premier usage?
En réalité, l'opium est présent en Chine depuis assez longtemps, depuis la fin du premier millénaire vraisemblablement, mais c'est surtout sous sa forme fumée qu'il est connu et qu'il est présent dans l'imaginaire collectif aujourd'hui, et il commence à être fumé à partir du début, milieu du XVIIe siècle, et il est fumé avec le matériel qu'on connaît dans l'imaginaire aujourd'hui, avec la longue pipe, la position allongée, ça date du XVIIIe siècle.
Mais avant d'être fumé, c'est essentiellement pour un usage médical qu'on utilise l'opium en Chine.
C'est tout à fait exact. C'était un élément important de la pharmacopée traditionnelle. Il était ingéré sous différentes formes, sous forme solide, mais également sous forme de solution.
Et auparavant, il y avait tout un commerce de l'opium dans la Méditerranée gréco-romaine, parce que ce qu'il faut dire, c'est que l'opium serait apparu en Suisse. Écoutons les explications de l'anthropologue belge Marcel Détienne.
Alors, le pavot a aussi une fonction très importante, que les Grecs connaissent bien, une autre espèce de pavot, c'est celui qui donne l'opium, et qui, par conséquent, est utilisé depuis probablement l'époque minoenne, mycénienne, à des fins, donc, d'extase, de transe ou de plaisir particulier. Et il y a même un certain nombre de vases qui ont la forme du pavot et qui semblent être réservés donc précisément à cet usage de l'opium, qui ensuite va devenir très, 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 très important, très actif. Il y a un grand commerce de l'opium, en particulier en Égypte gréco-romaine.
La culture du pavot, Xavier Paulet, se développe sur le pourtour méditerranéen, aussi parce qu'il s'agit d'une culture qui est assez rémunératrice.
Oui, alors c'est un médicament très efficace, l'opium. C'est le premier analgésique efficace dont on dispose. Donc il est connu depuis l'Antiquité grecque et romaine, et peut-être même au-delà. Et en particulier dans Homère, vous trouvez des passages sur le Nepenthes. Donc l'opium était consommé sous forme de solution à ce moment-là. Effectivement, un commerce se développe. C'est une substance extrêmement coûteuse à cette époque. C'est un commerce de luxe.
Donc contrairement à d'autres produits, l'opium est importé depuis l'Europe vers la Chine.
De ce point de vue-là, c'est une rareté. Effectivement, on est habitué plutôt à voir des marchandises, des plantes, des pratiques, suivre le chemin inverse. Et effectivement, l'opium voyage en Eurasie de l'Ouest vers l'Est.
Et alors en Chine, sous la dynastie Ming, du 14e au 17e siècle, on consomme l'opium sous forme liquide. Puis vous nous avez parlé de cette nouvelle technique, Xavier Paulès, qui consiste à inhaler les fumées. Mais alors quels sont les avantages de cette nouvelle technique? Pourquoi on commence à fumer l'opium?
Alors c'est une vraie révolution, je pense, qui ne se produit pas en Chine, qui se produit à Java. Donc au XVIIe siècle vient cette pratique qui s'appelle le madak, qui consiste à fumer un mélange de tabac et de solution d'opium. Alors pourquoi est-ce que je parle de révolution? Je reparle de révolution parce que par rapport à l'ingestion, on est dans des effets beaucoup plus immédiats. Et d'autre part, on fait disparaître des inconvénients majeurs qu'avait la consommation sous forme solide ou liquide, qui était le risque de surdose. C'est-à-dire qu'avec la consommation d'opium fumé, disparaît le risque de mourir accidentellement à cause d'un mauvais dosage.
Et en l'occurrence, c'est par l'intermédiaire de Taïwan que cette technique du madak arrive en Chine à partir du milieu du XVIIe siècle.
Voilà, c'est exact, effectivement. Et à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, on commence à trouver des traces de la consommation de madak dans les provinces méridionales de la Chine, en particulier la province du Fujian.
Alors là, on est encore au XVIIe siècle. Le XVIIIe siècle est souvent considéré comme étant l'âge d'or des Qing. Il y a alors de plus en plus de navires qui arrivent en provenance d'Europe. Est-ce que c'est essentiellement pour cette raison que la consommation d'opium va exploser à la fin du XVIIIe siècle en Chine, Xavier Paulès?
Les raisons sont assez complexes. En fait, les Occidentaux, et en particulier les Anglais à cette époque, ont développé sur une large échelle le commerce avec la Chine. Les Occidentaux, les Anglais ont besoin de thé, ont besoin de porcelaine en particulier, et de soieries. Et le problème auquel ils se heurtent, c'est qu'en échange de ces marchandises, les Chinois ne sont pas intéressés par les marchandises européennes, ne sont pas intéressés par exemple les textiles. Et de ce point de vue-là, ça pose un problème parce qu'on est obligé de compenser le déficit par des importations massives d'argent métal en provenance d'Amérique du Sud. Donc ça implique des circuits complexes, c'est coûteux. Et donc les Occidentaux, et en particulier la compagnie à charte britannique, l'East Indian Company, tente de trouver une marchandise qui puisse séduire le consommateur chinois. Et après de nombreux essais, on tombe sur une marchandise qui marche, entre guillemets, c'est l'opium.
C'est aussi ce que va nous expliquer l'historienne Marie-Claire Bergère, on l'écoute.
Les Anglais, en fait, désiraient commercer avec la Chine, où ils achetaient du thé, de la soie, des porcelaines, mais n'avaient pas grand-chose à offrir à la Chine en échange. Les Chinois ne s'intéressaient pas au lainage de Manchester. Ce n'était pas adapté à leur climat méridional, à Canton. Donc, il fallait trouver quelque chose pour les payer, pour éviter de payer en argent, ce qui déséquilibrait les finances anglaises. Et à la place de l'énage, on leur a offert de l'opium. Cet opium venait des Indes. Donc les Anglais exportaient vers les Indes leur cotonnade, favorisaient le développement de la production de l'opium en Inde, qu'ensuite ils allaient vendre en Chine. Et les Chinois, peu à peu, ont consommé de plus en plus d'opium. Si bien que le commerce de ces marchands anglais, qui au début était parfaitement déficitaire, où il fallait qu'ils apportent de l'argent frais, s'est équilibré progressivement et est même devenu très favorable à l'Angleterre. Et c'est l'argent chinois qui est sorti du pays pour compenser les échanges.
L'opium, Xavier Paulès, va permettre de rééquilibrer les échanges avec la Chine et même la balance commerciale va connaître un revirement spectaculaire dans les années 1820.
Exactement. Et alors ce qu'il faut peut-être préciser, c'est qu'en fait on imagine peut-être un peu trop le commerce entre la Chine et l'Europe comme des échanges de produits européens arrivant en Chine et des produits chinois arrivant en Chine. En réalité, les Européens sont plus actifs dans ce qu'on appelle le country trade, c'est-à-dire les échanges inter-asiatiques. Ils vont servir de courtiers, en quelque sorte, entre différentes parties du monde asiatique. Et de ce point de vue-là, avant même que les Anglais prennent vraiment possession de l'Inde, prennent contrôle de l'Inde, en réalité, ils vont s'insérer, comme l'avaient fait les Portugais avant eux, comme l'avaient fait les Hollandais avant eux, et également, et ça se poursuit, mais les Anglais vont avoir un rôle dominant à partir du XVIIIe siècle, eh bien, ils vont s'insérer dans les circuits commerciaux et parvenir donc à monopoliser cet axe qui devient à partir de la fin du XVIIIe siècle l'axe majeur du commerce de l'opium en Asie, qui est un axe Inde-Chine.
Et alors quel est le rôle que joue la compagnie britannique des Indes orientales ? Parce qu'elle ne se livre pas elle-même au trafic, mais elle en tire profit.
Oui, ce que j'ai dit tout à l'heure était peut-être un raccourci un peu trop rapide. En réalité, à partir de 1729, date à laquelle la consommation d'opium est extrêmement marginale encore en Chine, cette marchandise est interdite d'importation. L'East Indian Company, en l'absence de relations diplomatiques officiellement établies entre l'Angleterre et la Chine, sert à Canton en quelque sorte de représentant de facto du pouvoir britannique. Donc c'est en quelque sorte, elle est obligée de ne pas se livrer à des pratiques illégales ouvertement. Et en fait, cette East Indian Company, elle va utiliser le commerce de l'opium qui est effectué par des marchands indépendants parallèlement à ses propres circuits qui, eux, vont importer cette drogue illégale dans les ports chinois et en particulier à Canton, les ports du sud de la Chine. Et ces gens vont être payés. Donc ce sont des gens comme James Matheson. Ces gens vont être payés en argent par les Chinois et par un jeu de transfert, cet argent va passer dans les caisses de l'East Indian Company qui va l'utiliser à Canton même pour payer le thé en particulier, la porcelaine, les soieries dont elle a besoin. Donc il y a une espèce d'économie un peu triangulaire entre les marchands chinois, ces contrebandiers, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom, et la compagnie à monopole officielle, l'East Indian Company.
Vous parlez de Canton, Xavier Paulès. Ce qu'il faut rappeler, c'est que depuis 1660 et l'arrivée au pouvoir des Mandchous, l'empire du milieu était partiellement fermé et c'est seulement le port de Canton qui était ouvert au commerce avec les Occidentaux.
Oui, à partir du début du XVIIIe siècle. L'histoire au XVIIe siècle est plus compliquée. Il y a un épisode de fermeture totale des frontières maritimes par l'empire des Qing. Néanmoins, effectivement, Canton devient la porte d'entrée obligatoire avec un système très contraignant pour le commerce britannique. C'est ça qu'il faut bien voir, c'est que l'idée de cantonner le commerce à un seul port, c'est une idée de restriction et de contrôle de la part de l'Empire des Qing. Donc c'est un système d'échange qui doit passer par un groupe de marchands assermentés qui s'appelle le Kohong. On ne peut pas choisir son intermédiaire quand on est un marchand britannique, on ne peut pas choisir librement son intermédiaire chinois, on doit forcément passer par un groupe de marchands bien défini.
Un groupe qui est très critiqué.
Exactement. On accuse ces marchands d'être corrompus, de ne servir que leurs intérêts propres. Et de même, à Canton, les marchands britanniques ne peuvent pas s'installer où ils veulent. Ils s'installent dans un quartier bien spécifique, les factories. Et ils sont obligés de rester 6 mois par an seulement. Pendant les 6 mois, 6 mois d'été, ils doivent prendre leur quartier à Macao. Bon, c'est pas très loin, mais en même temps, c'est une façon symbolique pour le pouvoir manchou, le pouvoir des Qing, de montrer le fait qu'ils sont là de manière provisoire et que leur présence est soumise au bien vouloir de la dynastie.
La compagnie britannique des Indes orientales jouissait du monopole du commerce avec la Chine à Canton, mais c'est un monopole qui va disparaître en 1833. Xavier Paulès, avec quelles conséquences sur le commerce de l'opium ?
Alors que peut-être, je voudrais introduire une petite nuance. Dire que l'East Indian Company avait le monopole du commerce avec la Chine, c'est exact dans un contexte britannique. Mais par ailleurs, des compagnies et des marchands d'autres nationalités se livraient au commerce avec la Chine. Simplement, le commerce anglais était devenu dominant au milieu du XVIIIe siècle. Enfin, mais il y avait des Français, il y avait des Hollandais, il y avait des Suédois, il y avait de nombreuses nationalités qui cohabitaient à Canton.
Et du coup, que va provoquer cette fin de monopole ? De plus en plus de gens vont pouvoir s'intégrer dans ce marché, dans ce grand commerce de l'opium ?
Voilà, c'est tout à fait ça. C'est donc cette espèce de verrou consistait l'East Indian Company. L'East Indian Company avait donc tendance à vouloir que cette contrebande de l'opium demeure dans certaines limites raisonnables pour demeurer dans bons termes avec les autorités chinoises. Et donc ce verrou sautant, la contrebande vente de l'opium va se développer sur une échelle beaucoup plus importante. Et dans les années 1820-1830, il va y avoir une explosion de la contrebande d'opium. Et donc, ça aussi va alarmer l'empereur et l'entourage de l'empereur, qui va se décider à prendre des mesures plus énergiques pour lutter contre une contrebande qui était de fait une contrebande depuis plus d'un siècle, mais contre laquelle on avait, disons, fermé les yeux, ou alors on avait tenté des mesures, mais pas très énergiques.
Et les contrebandiers d'opium n'étaient pas seulement anglais. Il y avait aussi des marchands parsis, par exemple, du nom de cette communauté chassée de Perse. Mais les autres nations européennes n'étaient pas entrées dans ce commerce de l'opium, Xavier Paulès ?
C'était essentiellement le fait de commerçants écossais, parsis, assez peu anglais finalement, hein. Et le rôle des autres Européens était assez peu important. Par contre, il faut mentionner le fait que les Américains se sont livrés dans les années 1830, en particulier à partir des années 1830, assez activement aussi au commerce de l'opium. Chose qui est assez peu signalée. La famille Roosevelt a par exemple largement profité des profits de l'opium dans ces années-là. Et par contre, qu'une petite nuance, c'est que les Américains s'approvisionnaient essentiellement en opium turc, qui faisait venir cet opium en Chine.
Et alors, quelles sont justement les routes de l'opium, Xavier Paulès ? Les marchandises peuvent passer par la mer, mais aussi par les terres.
Alors, c'est une chose qui est effectivement assez peu connue, mais il y avait des circuits d'opium qui empruntaient des routes terrestres à partir de l'ouest de la Chine. Mais néanmoins, il reste exact que les gros flux, l'essentiel des flux, surtout à partir de la massification des années 1820-1830, arrivent en Chine à Canton et de plus en plus sur les autres villes de la côte, toujours de manière clandestine, il faut le souligner.
On l'a dit, la consommation d'opium va exploser en Chine tout au long du 19e siècle. Mais alors, quelles sont les couches sociales concernées par cette consommation d'opium ? Tout le monde fume de la drogue, de l'opium ?
Peut-être faut-il souligner que dans les débuts du 19e siècle et la première moitié, disons jusqu'aux années 1860-1870, l'opium reste une marchandise très coûteuse. Donc, ceci, évidemment, freine sa pénétration vers des couches sociales moins favorisées. Les premiers consommateurs, principalement les consommateurs du début du 19e siècle, se recrutent dans l'élite sociale, les fonctionnaires, les marchands, et la pénétration en profondeur dans la société chinoise va dater de la deuxième moitié du 19e siècle. En réalité, sous l'influence d'un phénomène très simple, qui est que les Chinois vont se mettre à planter le pavot sur une large échelle, eux aussi, à produire leur propre opium, ce qui va largement faire baisser les prix.
Alors, le gouvernement central chinois va finir par réagir. Est-ce que la réaction est d'abord liée à des raisons économiques, ou est-ce que c'est lié aux conséquences sanitaires de l'opium, Xavier Paulès ?
Alors là, il faut être très clair. Quand on lit les échanges qui se mettent en place au niveau de l'empereur et de l'entourage de l'empereur, puisque c'est un phénomène relativement classique dans l'histoire chinoise, c'est-à-dire confronté à un problème, l'empereur demande aux fonctionnaires de lui adresser des rapports dans lesquels ils doivent préconiser ce que, selon eux, on doit faire. Donc c'est exactement ce qui se passe. Au milieu des années 1830, l'empereur demande à ses hauts fonctionnaires de lui adresser des mémoires. Et la chose la plus frappante, quand on lit ces mémoires, c'est de constater que les enjeux sont économiques. En réalité, le débat porte sur les conséquences économiques, beaucoup moins que sanitaires, si on veut, de la drogue.
Et alors, en 1838, le commissaire spécial Lin Zexu est dépêché par l'empereur à Canton, justement, pour mettre un terme au trafic.
Lin Zexu, tu es un très haut fonctionnaire au sein de mon gouvernement. La consommation d'opium augmente de jour en jour. Quelle solution saurais-tu m'apporter ?
Je n'en ai qu'une seule. Un édit de votre majesté ordonnant la prohibition de cette drogue, et l'opium disparaîtra à jamais de tout le pays.
Lin Zexu, puisque tu es aussi certain, tu te chargeras de cette mission pour ton empereur en te rendant à Canton pour y éradiquer l'usage de l'opium.
Je veux que le commandant Han arrête tous les opiumans et trafiquants figurant sur la liste de Lin Zexu, afin qu'il les exécute en place publique.
Tout l'opium qui a été confisqué doit être détruit en place publique devant notre peuple et les observateurs étrangers, afin que les nations indentées d'outre-mer comprennent bien qu'elles doivent se soumettre en toutes circonstances aux décisions de l'Empire Céleste.
Un extrait du film La guerre de l'opium de Xie Jin, sorti en 1997. Quelles mesures, Xavier Paulès, Lin Se-Chou prend-il alors? Et est-ce que cette fiction vous semble proche de la réalité?
Finalement, à part la prononciation un petit peu catastrophique du nom de Lin Se-Chou, la fiction est relativement proche de la réalité. En fait, Lin Se-Chou est un très haut fonctionnaire en pleine ascension au sein de la haute fonction publique chinoise qui a avec lui une réputation d'efficacité, d'incorruptibilité et de fait une réputation tout à fait méritée. Et donc il est envoyé par l'empereur à Canton avec commission de mettre fin au trafic avec des mesures énergiques. Et donc il va se livrer à des mesures dans deux directions, des mesures en direction des consommateurs mais également des mesures à destination des marchands particulièrement les marchands britanniques, et il va donc sommer les marchands britanniques de livrer leur stock d'opium sous peine d'être expulsés de Canton.
Alors la nouvelle règle, c'est tous ceux qui vendent ou fument de l'opium en Chine sont passibles de peine de mort, et Lin Se-Chou va ordonner la destruction spectaculaire des 20 000 caisses d'opium qu'il a récupérées auprès des marchands britanniques en 1839. C'est cette décision qui est vécue par l'Angleterre comme un affront qui va déclencher la première guerre de l'opium.
Alors il faut être c'est tout à fait vrai, il faut être précis dans la mesure où cet opium, par un tour de passe-passe, en fait on se retrouve dans une situation où il y a un blocage, c'est-à-dire que les marchands britanniques essaient de donner quelques centaines de caisses en se disant que comme les autres fonctionnaires qu'ils ont connus, ça va être quelques gesticulations, puis qu'après le trafic va reprendre comme avant. En réalité ça marche pas du tout, Lin Se-Chou est inflexible, et donc par un tour de passe-passe, on livre les caisses d'opium qui étaient en stock à Canton et dans la région, et notamment sur les bateaux qui étaient ancrés au large. On donne 20 000 caisses, effectivement, qui deviennent des propriétés de la couronne britannique et qui sont, dans un deuxième temps, livrées ensuite aux autorités chinoises. Et c'est cet opium qui va être détruit. C'est une énorme quantité d'opium. 20 000 caisses, chaque caisse pèse 30 kilos. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose d'énorme.
Et comment est-il détruit?
Alors ça, c'est une petite histoire. Effectivement, généralement, pour des raisons cinématographiques, on met en scène la destruction par le feu, parce que c'est vrai que c'est très visuellement c'est très beau. En réalité, pour des raisons logistiques, c'est impossible de détruire une telle quantité d'opium par le feu, et donc Lin Se-Chou, qui est un homme très brillant, imagine une solution ad hoc, qui est de broyer cet opium, de le diluer dans de l'eau, dans de grandes cuves proches de la mer, et ensuite d'utiliser le mouvement des marées pour évacuer cette solution d'opium vers le large.
Alors pour bien comprendre les raisons du déclenchement de cette guerre, de cette première guerre de l'opium, comment est-ce qu'on peut caractériser les relations entre la couronne britannique et l'Empire chinois dans les années 1830, Xavier Paulès?
Elles sont officiellement inexistantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relations diplomatiques entre les deux. Et donc la décision d'entrer en guerre qui est prise par les Anglais avec des débats extrêmement serrés. Ça c'est aussi quelque chose qu'il faut bien souligner, c'est qu'il faut pas imaginer, comme le fait une historiographie chinoise, les Britanniques le gouvernement britannique impatient de trouver la première occasion pour sauter à la gorge de la Chine et lui imposer par la guerre une ouverture commerciale. En réalité c'est pas du tout le cas. C'est une décision qui est très difficile à prendre, l'entrée en guerre en première guerre de l'opium. Les Britanniques, les membres du Parlement, les membres du gouvernement sont éminemment convaincus du caractère illégal et immoral du commerce de l'opium. Néanmoins, il y a quand même, par le tour de passe-passe dont j'ai parlé, c'est une propriété de la couronne britannique qui a été détruite. Et ça, les Anglais ne souhaitent pas passer là-dessus. Évidemment, à l'arrière-plan, il y avait la volonté d'ouvrir la Chine, de forcer l'ouverture de la Chine d'un point de vue commercial. L'idée qu'il fallait établir, comme on le connaissait en Europe, des rapports fondés sur l'égalité entre la Chine et le Royaume-Uni, des relations diplomatiques comme on l'entendait en Europe. Et donc, c'est cette espèce de cocktail de motivation de très court terme, très contingente, et de raisons de plus long terme qui explique la décision prise par le gouvernement britannique.
Et il y a alors une ignorance quasi totale, en fait, de la culture et de la langue de l'autre. Ce sont deux puissances qui ne se connaissent pas et ont peut-être beaucoup d'a priori les uns sur les autres.
C'est assez frappant, effectivement. Chacun est persuadé de son infinie supériorité morale, philosophique, religieuse, tout ça. Mais ce qui est amusant, c'est qu'en réalité, c'est paradoxal, parce que la personne qui va vraiment être le déclencheur, le détonateur de la guerre de l'opium, c'est Lin Zexu. Et peut-être que Lin Zexu est relativement non représentatif de l'élite chinoise, dans la mesure où lui, il a cette curiosité d'aller comprendre qui sont ces étrangers. Donc, il a commencé à mesurer la puissance, donc il a commencé à mesurer l'avance technologique dans le domaine de la navigation, dans le domaine de l'armement en particulier. Et donc, il a cette curiosité, il va commanditer des œuvres de recherche, on peut dire, des travaux de recherche sur ces barbares occidentaux pour essayer de mieux les connaître. Et le paradoxe, c'est que c'est lui qui va, avec cette connaissance, bon, certes encore très rudimentaire, hein, des étrangers, et en particulier des Anglais, c'est lui qui va quand même être le détonateur, parce qu'il n'a quand même pas, il a quand même sous-estimé la puissance de feu et la détermination du gouvernement britannique.
À l'inverse, la plupart des membres des élites chinoises méprisaient les Britanniques, qui étaient des marchands, et c'est un groupe social d'assez basse catégorie dans la morale confucéenne, Xavier Paulès.
Ah, il y avait trois raisons de mépriser ces marchands britanniques. D'abord, c'était des étrangers qui ne maîtrisaient pas le chinois. Deuxièmement, c'était des marchands, effectivement, donc dans un ordre confucéen idéal, le marchand est très bas dans la société. Et la troisième raison, c'est que c'était des contrebandiers, des brigands.
Alors, la supériorité militaire des Anglais, des Britanniques en l'occurrence, est telle que la Chine est contrainte de conclure le 29 août 1842 le traité de Nankin. Pourquoi est-ce que ce traité est aussi important dans l'histoire des relations de la Chine avec le reste du monde, Xavier Paulès?
Alors, c'est un traité important, mais quand même, du point de vue chinois, il faut essayer de penser à la grande surprise que représente cette défaite militaire, tout de même, dans la mesure où quelques milliers de troupes d'infanterie britanniques sont capables de mettre à la raison les troupes Qing, infiniment plus nombreuses, un empire très puissant. Donc le gouvernement va de surprise en surprise et il est contraint de signer effectivement un traité qui est important parce qu'il va marquer l'ouverture forcée au commerce de la Chine, avec donc c'est un traité extrêmement court, le traité de Nankin. C'est surprenant quand on considère l'importance qu'il a dans l'imaginaire collectif chinois et dans l'histoire des relations entre la Chine et le reste du monde. C'est un traité extrêmement court, mais il va supprimer le Kohong notamment. Il va introduire la 5 ports ouverts avec lesquels le commerce va se faire entre les étrangers et la Chine.
Et pourtant, il n'est pas fait mention d'opium du tout dans ce traité. C'est assez étonnant.
C'est le paradoxe, effectivement. La guerre de l'opium a été effectivement causée quand même par le casus belli, ça a quand même été cette destruction des 20 000 caisses. Et le commerce de l'opium reste illégal à l'issue de la première guerre de l'opium.
Et quelle influence les marchands d'opium ont-ils eu malgré tout sur la rédaction de ce traité, et peut-être notamment dans le choix des ports chinois qui vont être ouverts au commerce?
Il est évident que les marchands britanniques d'opium, les marchands britanniques, se sont livrés à une intense lobbying auprès des autorités en Angleterre. Ils avaient l'information, les informations précises sur le marché chinois, sur les ports qui étaient intéressants, et ils avaient flairé avec beaucoup d'à propos le rôle crucial que pourrait avoir Shanghai. Shanghai idéalement placé à l'embouchure de Yangtze pour pénétrer en profondeur le marché chinois. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, ils ont été les têtes chercheuses de l'Empire britannique pour établir un traité qui soit assez favorable.
Et alors, qu'espèrent en réalité les Chinois en concluant ce traité, Xavier Paulès? Parce qu'il y a quand même beaucoup de concessions qui sont faites, notamment l'île de Hong Kong aussi, qui est cédée à perpétuité à la couronne britannique.
Ça, c'est amusant, parce qu'en réalité, les négociateurs britanniques qui ont obtenu l'île de Hong Kong se sont fait conspuer par de nombreux politiciens britanniques en leur expliquait que ils s'étaient fait avoir et qu'ils avaient obtenu un petit bout de territoire qui n'avait aucun intérêt, une île rocheuse avec une population qui était quelques villages de pêcheurs, alors qu'il y avait des morceaux beaucoup plus juteux qu'il aurait été judicieux de se faire céder. Donc de ce point de vue-là, la concession paraît modeste du point de vue britannique comme du point de vue chinois. Alors ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que du point de vue de l'Empire chinois, il s'agit quand même essentiellement de se débarrasser rapidement de ces marchands très entreprenants et de leur céder quelques avantages commerciaux pour que on puisse revenir à la paix et donc apaiser ces barbares turbulents avec quelques concessions commerciales sans grande signification apparemment, à l'époque en 1842.
Et du côté du Royaume-Uni, on cherche avant tout à établir des relations diplomatiques d'égal à égal avec l'Empire du Milieu.
Alors de ce point de vue-là, ils n'ont pas obtenu satisfaction en 1842, mais effectivement, le traité de 1842 a été taillé trop court, c'est clair. Et au fur et à mesure qu'on va rentrer dans les années 1840-1850, le progrès technique consécutif à la révolution industrielle en Europe va rendre la supériorité matérielle et militaire de plus en plus flagrante. Et surtout, les marchands vont de moins en moins se contenter des 5 ports qui ont été ouverts en 1842. Ils vont réclamer une ouverture plus large. Et de même, du point de vue diplomatique, on n'a toujours pas de représentation diplomatique à Pékin, toujours pas établi de relations vraiment d'égal à égal.
Un traité taillé trop court, dites-vous Xavier Paulès, et c'est ce qui va déclencher la seconde guerre de l'opium. On en parle dans un instant.
Dans le port de Saïgon est une jonque chinoise, mystérieuse et sournoise, dont on ne connaît pas le nom. Et le soir dans l'entrepont, quand la nuit se fait complice, les Européens se glissent, cherchant des coussins profonds. Opium, poison de rêve, fumée qui monte au ciel, c'est toi qui nous élève. Au paradis artificiel, je vois le doux visage, les yeux de mon aimé. Par toi, j'ai son image dans ton nuage. Du demi-jour, les lanternes qui se voilent sont de petites étoiles qui pâlissent tour à tour. Et le soir au parfum lourd, au gré de la fumée lente, le fumeur se représente les plus beaux rêves d'amour. Opium, poison de rêve. C'est toi qui nous élève au paradis artificiel. Je vois le doux visage, les yeux de mon aimé. Par toi, je sens.
Écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
C'était Opium du duo de chanteuses françaises Brigitte. Nous poursuivons notre histoire économique des guerres de l'opium en compagnie de Xavier Paulès. Alors contrairement à ce que la Chine espérait avant le déclenchement de la guerre, le trafic d'opium ne va pas diminuer en Chine et c'est même l'inverse qui se produit. Alors comment est-ce que se déroule ce trafic, Xavier Paulès? Parce que les bateaux chargés d'opium n'ont pas le droit d'accoster en Chine, même dans les ports autorisés. Comment est-ce que cela fonctionne?
Alors, les marchands, quand il s'agit de gagner de l'argent, en sont rarement en manque d'imagination. Et donc, les bateaux venus d'Inde, chargés d'opium acheté en Inde, stationnent au large des principaux ports. Et ensuite, de petits bateaux, appelés en chinois les crabes rapides, qui sont, eux, affrétés par des commerçants chinois, viennent s'approvisionner à bord de ces bateaux et ensuite répartissent la drogue dans les circuits commerciaux illégaux, mais néanmoins particulièrement dynamiques, se mettent en place à cette époque dans les provinces côtières de la Chine et ça commence aussi également à être important au niveau de la capitale.
Et alors quels vont être les facteurs déclencheurs de la seconde guerre de l'opium, notamment peut-être les relations à Canton entre la population chinoise et les Britanniques?
Oui, les Britanniques sont très mal vus à Canton et surtout ce qu'il faut bien imaginer, c'est des fonctionnaires britanniques qui rongent leurs freins parce qu'en réalité, ils ne peuvent pas avoir accès à la cour, ils ne peuvent pas avoir accès à la tête de l'État. Les rapports qu'ils ont sont uniquement, et ça c'est quelque chose auquel les Chinois tiennent, uniquement gérés par les autorités locales. Et donc ça c'est quelque chose qui insupporte les diplomates britanniques, et de ce point de vue-là, ils sont tout à fait d'accord avec les marchands pour donner une seconde leçon à la Chine et exiger une ouverture de relations diplomatiques d'égal à égal, telles qu'on les connaît en Europe.
L'objectif, c'est aussi de légaliser le commerce de l'opium, mais les Qing continuent à s'y refuser. Et c'est à ce moment-là que les Britanniques vont chercher l'aide des Français et des Américains. Alors comment est-ce qu'ils vont les convaincre, en l'occurrence les Français, de participer à cette expédition ?
Alors, ils essaient de convaincre les Américains sans succès. Avec les Français, ils vont avoir un petit peu plus de réussite parce que les Français, eux, ont une politique de pénétration de leur influence en Chine qui consiste à appuyer les missionnaires. Or, un missionnaire français est massacré au milieu des années 1850 dans une province de l'intérieur où il n'avait absolument rien à faire, cela étant dit entre parenthèses. Chapdelaine, le nom de ce fonctionnaire, et les Anglais, eux, se saisissent d'un prétexte extrêmement insignifiant, qui est l'arraisonnement d'un bateau de contrebande battant pavillon britannique. Harrow, c'était le nom de ce bateau, donc d'où le nom en anglais de Harrow War, plutôt que Deuxième Guerre de l'Opium, parfois on l'appelle. Et donc, alors les histoires étaient compliquées, est-ce que ce bateau avait vraiment le droit d'arborer le pavillon britannique ou pas? Enfin, peu importe, ce qui est certain, c'est que les fonctionnaires britanniques sautent sur un prétexte, enveniment la situation à dessein, et alors même que, de l'avis d'une commission parlementaire britannique du début des années 1850, la Chine applique de manière tout à fait, disons, sincère, les clauses du traité de Nankin. Donc vraiment, là, il y a une volonté de la part des Britanniques de chercher une solution militaire.
Et là encore, la supériorité militaire des Britanniques est évidente, surtout avec l'aide des Français.
Alors les Britanniques ont un problème, c'est qu'ils sont confrontés en Inde à cette époque à une révolte. La fameuse révolte des Sipayes qui a affaibli considérablement leur emprise sur l'Inde. À cette époque, ils sont vraiment en difficulté. Hein. C'est une révolte très sérieuse. Donc l'aide des Français est particulièrement bienvenue dans ce contexte. Alors, les guerres de l'opium, la deuxième en particulier, c'est une succession d'opérations militaires, de négociations, un espèce de jeu de cache-cache. Et donc, notamment, il y a un premier traité qui est signé en 1858. Ensuite, les Chinois vont revenir dessus parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont peut-être réussir à renverser militairement la situation à leur avantage. Ça ne marche pas du tout.
Donc d'abord le traité de Tianjin. Voilà. Qu'est-ce que prévoit ce traité?
Ce traité de Tianjin prévoit les relations diplomatiques enfin d'égal à égal et l'ouverture de davantage de ports aux commerçants britanniques. Alors ils vont avoir donc il y avoir une reprise et une indemnité très significative de guerre. Et il va y avoir une reprise des hostilités. Et en 1860, on va signer un nouveau traité. Et cette fois-ci, donc, on va obtenir la paix. Et les Britanniques obtiennent la légalisation de l'opium.
L'ultime offensive lancée par le gouvernement impérial va entraîner d'autres opérations militaires en réponse. Et les troupes alliées pénètrent dans la capitale le 13 octobre 1860. C'est l'épisode peu glorieux du sac du palais d'été par les Occidentaux, dénoncé par Victor Hugo dans une lettre demeurée célèbre.
Il y avait dans un coin du monde une merveille du monde. Cette merveille s'appelait le palais d'été. Bâtissez un songe avec du marbre, du jade, du bronze, de la porcelaine. Charpentez-le en bois de cèdre, couvrez-le de pierreries, drapez-le de soie, faites-le ici sanctuaire, là harem, la citadelle. Mettez-y des dieux, mettez-y des monstres. Vernissez-le, émaillez-le, dorez-le, fardez-le. Faites construire par des architectes qui soient des poètes les mille et un rêves des mille et une nuits. Ajoutez des jardins, des bassins, des jaillissements d'eau et d'écume, des cygnes, des ibis, des paons. Supposez en un mot une sorte d'éblouissante caverne de la fantaisie humaine ayant une figure de temple et de palais. C'était là ce monument. Cette merveille a disparu. Un jour, deux bandits sont entrés dans le palais d'été. L'un a pillé, l'autre a incendié. Une dévastation en grand du palais d'été s'est faite de compte à demi entre les deux vainqueurs. L'un des deux vainqueurs a empli ses poches, ce que voyant, l'autre a empli ses coffres. Et l'on est revenu en Europe, bras dessous en riant. Telle est l'histoire des deux bandits. Nous, Européens, nous sommes les civilisés. Et pour nous, les Chinois sont les barbares. Voilà ce que la civilisation a fait à la barbarie. Devant l'histoire, l'un des deux bandits s'appellera la France, l'autre s'appellera l'Angleterre. J'espère qu'un jour viendra où la France, délivrée et nettoyée, renverra ce butin à la Chine spoliée. Telle est, monsieur, la quantité d'approbation que je donne à l'expédition de Chine.
Un extrait de la lettre de Victor Hugo au capitaine Butler, datée du 25 novembre 1861, lu ici par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Victor Hugo est alors l'un des rares Européens à s'émouvoir du sac du Palais d'été, Xavier Paulès.
On peut le dire, effectivement, donc c'est un beau morceau de littérature, mais il ne faut pas oublier le petit morceau de phrase dans lequel on parle d'une France délivrée. C'est-à-dire que Victor Hugo, évidemment, n'a pas de mots assez durs pour critiquer Napoléon III, alors qu'en réalité, selon les critères de l'époque, il s'agit quand même d'une victoire militaire de la France, d'un traité qui va suivre, qui va être favorable aux avantages de la France, dont on a plutôt tendance à se féliciter, effectivement. Il n'en reste pas moins que cette indignation est effectivement tout à fait légitime. L'incendie, le pillage, la destruction du palais d'été n'a rien d'un fait d'armes particulièrement glorieux.
Et alors, quelques années plus tôt, en 1957, Baudelaire publiait dans Les Fleurs du Mal un poème intitulé Le Poison. Je vous en lis un extrait. L'opium agrandit ce qui n'a pas de bornes, allonge l'illimité, approfondit le temps, creuse la volupté et de plaisir noir et morne remplit l'âme au-delà de sa capacité. Est-ce qu'on retrouve en Europe et en Chine, Xavier Paulès, finalement les mêmes débats autour des dangers de l'opium ?
L'opium est dangereux. On en a conscience en Europe comme en Chine, assez tôt, finalement. Néanmoins, il y a une différence assez fondamentale, je pense, c'est que l'opium va tout de même exalter par des poètes, des littérateurs en Europe, alors qu'il ne va jamais recevoir cette caution en Chine. Et ça, c'est crucial, parce qu'en fait, vous avez des autres psychotropes, des substances psychoactives telles que l'alcool, qui sont célébrées depuis très longtemps en Chine, par les très grands littérateurs. Il y a une énorme littérature qui célèbre l'alcool sous divers formes. Alors que l'opium ne va jamais recevoir cette confirmation littéraire. Et ça,
c'est parce qu'il
crucial.
Est associé aux Britanniques?
Probablement que ça peut avoir joué un rôle. L'opium sera toujours considéré, est toujours considéré en Chine comme une drogue éminemment étrangère. Alors qu'en Europe, donc, vous avez donc l'époque de Baudelaire, c'est l'époque du laudanum, c'est-à-dire qu'on consomme plutôt l'opium à cette époque sous forme de solution. Alors que vers la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, on va se piquer de fumer l'opium avec le matériel chinois qu'on connaît. Donc des fumeries d'opium vont être fréquentées par l'intelligentsia parisienne à Montmartre ou ailleurs.
Et alors, que va-t-il se passer, Xavier Paulès, après cette seconde guerre de l'opium? C'est une nouvelle défaite militaire pour la Chine. Elle va être obligée de faire de nouvelles concessions?
Oui, tout à fait. L'ouverture commerciale, maintenant, est plus importante. En particulier, l'ouverture de l'axe du Yangtze, qui est quand même absolument crucial pour pénétrer à l'intérieur du marché chinois. Néanmoins, bon, le commerce va se développer sur une large échelle, mais néanmoins, on va jamais... c'est un peu comme aujourd'hui, hein, les commerçants britanniques ont beaucoup fantasmé sur le marché que représentent les 400 millions de Chinois. En réalité, le commerce va se développer, mais il ne faut pas du tout imaginer ces 400 millions de consommateurs chinois se précipiter sur les produits occidentaux. Rapportés à la Chine, En fait, la grande affaire de la Chine dans ces années 1856-1860, c'est absolument pas la guerre de l'opium, c'est la grande révolte des Taiping et la vague successive de révoltes qui balaye la Chine et qui va mettre à genoux littéralement la dynastie. La guerre de l'opium est un espèce d'épiphénomène quand même pour eux. Mmh. Ça, il faut bien, pour les Occidentaux, dans leur rapport avec la Chine, c'est une chose très importante, cruciale même, alors que pour la Chine, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est de se débarrasser de cette petite épine pour se consacrer à la lutte contre les Taiping qui, là, vraiment mettent en danger l'existence de la dynastie.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui étaient les Taiping et nous dire, Xavier Paulès, si effectivement, c'est peut-être à cause de cette révolte que l'Empire n'a pas pu mettre toutes ses forces dans les deux guerres contre les Britanniques et ensuite les Britanniques. Et les Français.
C'est tout à fait ça. À partir de 1851-52, une révolte née dans la province du Guangxi, donc une province pauvre et relativement périphérique de l'Empire, va s'étendre et va, surtout le plus important, s'étendre dans le poumon économique de l'Empire, qui est la basse vallée du Yangtze, c'est-à-dire la région de Nankin, Shanghai, Suzhou, Hangzhou. Et donc, c'est dans cet espace que le pouvoir des Taiping va établir son gouvernement et il va menacer Pékin quelques années plus tard. Donc ça, c'est crucial parce que la dynastie se trouve privée de la partie la plus prospère de l'Empire.
Et alors, on a parlé du traité de Nankin, on a parlé également du second traité. Le traité de Tianjin en 1858. Il y aura un autre accord, les accords de Chifu du 13 septembre 1876. Dans quel contexte ces accords sont-ils signés? Est-ce qu'ils ouvrent peut-être une nouvelle perspective dans les relations entre le Royaume-Uni et la Chine, Xavier Paulès?
Alors, ce qui est remarquable avec ces accords, c'est qu'ils sont conclus pour la première fois, pas à l'issue d'une guerre. C'est le premier résultat de la diplomatie entre les Occidentaux et la Chine. Et donc, on arrive à un accord qui est en quelque sorte favorable à tous. C'est-à-dire qu'il s'agit de taxer l'opium assez lourdement à son entrée en Chine, ce qui convient bien aux Occidentaux, dans la mesure où ça évite à l'opium de passer par les taxes à l'intérieur du pays, le système des douanes intérieures chinoises qui était un maquis de complexité et de complications, donc ça permet à l'opium d'éviter ça. Mmh. Et le gouvernement central, lui, est très content parce que les taxes qui sont prélevées à l'entrée de l'opium en Chine tombent directement dans ses coffres au lieu de tomber dans les coffres des autorités locales. Donc de ce point de vue-là, on a véritablement un accord de compromis qui satisfait les deux parties.
C'est un accord beaucoup plus équilibré que les accords précédents. On peut dire que les relations entre la Chine et le Royaume-Uni et la France s'apaisent à partir de ce moment-là, Xavier Paulès.
Disons qu'elles se normalisent. Les Britanniques, les Français aimeraient obtenir plus de la Chine, en particulier en ce qui concerne la pénétration du marché. Mais néanmoins, ils ont quand même déjà obtenu beaucoup de choses. Il faut pas oublier que à cette époque, les concessions se sont multipliées dans les villes chinoises. Donc en particulier à Shanghai, vous avez la grande concession internationale, la concession française. Vous avez le privilège de l'extraterritorialité dont jouissent les Européens, c'est-à-dire que si vous êtes, pour simplifier un petit peu, hein, si vous êtes confronté à une plainte, si vous êtes impliqué dans une plainte, vous êtes jugé non pas par la justice du pays, en l'occurrence la justice de la Chine, mais vous êtes jugé par votre consul, pour simplifier, ce qui est évidemment assez confortable.
Et alors, quelles vont être les conséquences, les effets de ces guerres de l'opium sur la Chine? Que change cette ouverture? On a dit que ça avait entraîné un vaste mouvement de modernisation dans l'Empire du Milieu, Xavier Paulès.
Il faut avoir conscience que pour les Chinois, la modernité s'ouvre en 1839. C'est-à-dire que c'est un événement fondateur dans l'historiographie chinoise, dans la façon dont les Chinois se représentent leur rapport au monde. En 1839, la Chine a été forcée de s'ouvrir, pour le meilleur et pour le pire. C'est un traumatisme aussi, parce que la façon dont elle s'ouvre, c'est une façon qui passe par les armes, par la violence, par une défaite humiliante, puis une seconde défaite humiliante, puis encore une défaite humiliante contre la France en 1885, puis une autre défaite humiliante contre le Japon. Donc, c'est une ouverture qui est vécue aussi douloureusement et qui est toujours une blessure saignante et entretenue à dessein aussi, il faut le dire, par l'historiographie officielle et du Parti communiste chinois aujourd'hui.
Et alors, revenons un instant à l'opium, qui est notre sujet d'aujourd'hui. Entre 1906 et 1911, la dynastie Qing va réussir à faire reculer la consommation d'opium, on le disait en début de cette émission, mais c'est des succès qui vont être réduits à néant par la révolution de 1911, qui entraîne la chute du régime impérial et l'avènement de la République.
S'il y a une grande erreur à ne pas faire concernant cette dynastie des Qing, notamment à la fin, c'est de l'imaginer comme une dynastie complètement incapable de se réformer, sclérosée, prête à tomber d'elle-même, en fait, de la part de ses propres insuffisances. En réalité, c'est exactement le contraire qui est vrai. À partir de 1901, la dynastie des Qing va mettre en place une série de réformes extrêmement radicales, extrêmement profondes, allant dans le sens de l'instauration d'une monarchie parlementaire, d'une modernisation tous azimuts du pays, largement inspirée de l'exemple japonais. Et dans ce cadre-là, une des composantes de cette politique, qu'on appelle les nouvelles politiques, hein, Xinjiang, c'est la lutte contre l'opium. Et un plan dit plan de 10 ans va être mis en place en 1906, plan qui va remporter des succès tout à fait considérables. En gros, les Occidentaux n'y croyaient absolument pas en 1906 et ils vont très vite s'apercevoir que les résultats sont là. Et donc, la Chine enregistre au début des années 1910, les observateurs occidentaux pensent que l'opium va disparaître dans les quelques années qui vont suivre. Néanmoins, intervient la révolution de 1911 et là, le problème c'est que jusqu'en 1916, il y a encore un pouvoir central assez consistant à Pékin qui contrôle à peu près l'ensemble du pays avec le dictateur Yuan Shikai. Mais néanmoins, à la mort de Yuan Shikai en 1916... les forces centrifuges l'emportent et là, ça devient beaucoup plus difficile puisque lutter contre l'opium implique un pouvoir central fort. Là, on est dans un contexte de pouvoirs locaux rivaux pour lesquels les revenus qu'on peut tirer de l'opium sont une tentation vraiment trop forte et donc il va y avoir une relégalisation de l'opium dans les différentes parties de la Chine à partir de cette décennie 1910.
Et ce sont donc finalement les communistes qui, au début des années 50, parviennent à éradiquer complètement à la fois la production et la consommation en Chine, Xavier Paulès ?
C'est exact, mais peut-être que c'est dit un peu trop vite. Les communistes en 1950 récoltent les fruits de la politique du Kuomintang, qui avait lutté lui aussi assez efficacement dans les années 30 contre l'opium, et surtout, les Chinois s'étaient dépris de l'opium de plus en plus qu'on avançait dans les années 1930-40. L'opium était devenu une pratique relativement marginal. Et donc les communistes ont donné le coup de grâce, c'est exact, avec une politique extrêmement vigoureuse et efficace, mais néanmoins, disons que le fruit était prêt à être cueilli.
Pourquoi la consommation de l'opium était-elle devenue marginale ?
En fait, le facteur principal, c'est cette idée qu'ont réussi à instiller les penseurs nationalistes du début du XXe siècle en Chine, qui liaient l'humiliation nationale de la Chine avec l'opium et la consommation d'opium. Donc en réalité, les élites chinoises se sont épris de l'opium dès les années 1900-1910, et un petit peu par effet d'imitation, en cascade, je dirais que ce mépris de l'opium est devenu de plus en plus une drogue du pauvre, une drogue d'ouvriers, de coulis, et donc de ce point de vue-là, cette désaffection progressive à expliquer, donc a affaibli les positions de la drogue dans la population chinoise.
Quel est aujourd'hui, Xavier Paulès, le récit qui est fait des guerres de l'opium ? Quelle mémoire reste-t-il aujourd'hui en Chine de ces guerres ?
Le début de 100 années d'humiliation. C'est-à-dire que la période 1839-1949, donc en fait 1949, c'est la proclamation de la République populaire de Chine, cette période d'une centaine d'années est toujours appelée le siècle des humiliations. Et donc, les guerres de l'opium ouvrent ce siècle d'humiliation pour la Chine, avec des traités qui sont conclus avec les étrangers, qui sont baptisés d'un nom spécial en Chine qu'on appelle traités inégaux. Et donc, cette idée que la Chine entre dans le concert des nations, mais entre avec un statut de semi-colonie, humiliée. Et donc la rhétorique est extrêmement... c'est peut-être un peu moins vrai depuis quelques années, mais on avait une rhétorique communiste sur l'état d'esclavage du peuple chinois, l'humiliation permanente face aux étrangers, etc., qui permet de comprendre un petit peu mieux, peut-être, la façon dont la Chine envisage aujourd'hui ses relations diplomatiques et internationales.
Et en même temps, la résistance aux guerres de l'opium, c'est l'un des événements fondateurs du mythe patriotique contemporain en Chine. Il y a notamment ces bas-reliefs qui représentent la destruction de l'opium confisqué au marché anglais en 1839 qui existe sur la place Tiananmen. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a un mythe patriotique qui s'est construit véritablement autour de ces guerres de l'opium.
Non, Lin Zexu en particulier est héroïsé et inscrit au panthéon des grands hommes chinois en raison de sa prise de position contre l'opium. Ce qui est un peu paradoxal, parce qu'en réalité, quand on lit les écrits de Lin Zexu avant la période où il était envoyé à Canton, il était plutôt partisan, Lin Zexu, de développer en réalité la production d'opium en Chine pour concurrencer les importations d'opium indien. Ce que j'avais expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que l'enjeu est perçu de manière économique avant tout. Mmh. C'est-à-dire qu'il s'agit de mettre fin à ces importations très coûteuses, même si ça implique de développer la plantation en Chine même. Donc c'est un statut, une iconisation de Lin Zexu qui est assez paradoxale, mais en tout cas qui est menée sur une très large échelle.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir sur l'un des principaux scandales sanitaires qui secouent aujourd'hui les États-Unis.
Mais oui, près de deux siècles après les guerres de l'opium qui virent les pays européens imposer leur puissance à l'Empire chinois, ce sont aujourd'hui les États-Unis qui sont touchés par les ravages de l'opium, ou plutôt de ses dérivés médicamenteux. Une crise si grave qu'elle a causé l'année dernière la mort de plus de 70 000 personnes aux États-Unis, soit plus que les accidents de voiture ou que les armes à feu. Une crise si grave qu'elle a même participé à une baisse de l'espérance de vie, une première depuis 1918 et la grande épidémie de grippe qui toucha l'Amérique. Les Américains meurent ainsi et par dizaines de milliers de la prise de ces drogues opiacées, héroïne, morphine et autres opioïdes de synthèse comme l'oxycodone, un antidouleur très puissant délivré sur ordonnance mais qui a rapidement colonisé le marché noir après avoir plongé dans l'addiction près de 2 millions d'Américains.
Le problème, Arjuna, c'est que cette surconsommation américaine d'opioïdes n'a rien d'un accident.
Non, c'est le moins que l'on puisse dire. Cette contamination générale a même été savamment orchestrée par l'entreprise Purdue Pharma, qui commercialise l'oxycontine et qui a tout fait pour multiplier ses ventes et ses profits. C'est ce qu'explique un journaliste du Monde Diplomatique qui s'est rendu en Ohio, l'un des États américains les plus touchés par cette épidémie. À l'origine, ces analgésiques très puissants étaient réservés aux malades de cancer en phase terminale ou à la chirurgie lourde. Mais dès 1995, le laboratoire a lancé une grande campagne de lobbying visant à repenser totalement le rapport à la souffrance du patient. À grand renfort de vidéos, de brochures publicitaires et de prescriptions gratuites, la firme a donc vendu sa vision du monde débarrassé de la douleur, quitte à causer d'autres souffrances par l'usage de remèdes bien plus puissants que le mal.
Une stratégie qui se traduit par une hausse sans précédent des bénéfices de l'entreprise.
Exactement. À la fin des années 90, on commence ainsi à prescrire à tout va de l'oxycontine pour soulager des douleurs jusqu'alors prises en charge par des drogues bien moins fortes. Et la stratégie de banalisation des opioïdes de la firme Purdue Pharma porte rapidement ses fruits. En 1996, les ventes d'oxycontine rapportaient à la firme 45 millions de dollars contre plus d'un milliard quatre ans plus tard. Des chiffres absolument délirants qui témoignent d'une véritable ruée vers l'opium savamment orchestrée. Pour vous donner un ordre de grandeur, on prescrit en 2012 près de 800 millions de doses dans le seul état de l'Ohio, soit 68 pilules par habitant en l'espace d'une seule année.
Il faut dire que contrairement aux autres drogues dures, l'addiction aux opioïdes se fait presque souterrainement.
Oui, car la première dose est bien souvent prescrite par le médecin de famille pour lutter contre une douleur de dos ou une rage de dents. Comme nous le rappelle le Monde Diplo, les précédentes épidémies d'overdose dans les années 70 et 90 avaient touché à 80% des hommes, alors que l'on retrouve aujourd'hui presque autant de femmes que d'hommes. Le mensuel explique ainsi que la firme pharmaceutique a agi comme un cartel de la drogue en identifiant sciemment les régions les plus vulnérables du pays, là où se concentre le chômage des cols bleus, anciens ouvriers de l'industrie accidentés du travail et de la vie. Des fuites de documents internes ont même révélé que l'entreprise avait encouragé le développement de cliniques de complaisance, ces Pills Mills, sorte d'établissement fantoche créé dans le seul but d'écouler de l'oxycontine.
Et le problème, c'est qu'une fois tombé dans l'addiction, ces patients ont beaucoup de mal à s'en sortir.
Oui, car c'est une dépendance particulièrement puissante et rapidement, ces camés, malgré eux, se tournent vers le marché noir pour trouver des formes encore moins contrôlées d'opiacés, comme l'héroïne. Pourtant, les pouvoirs publics ont tardé à réagir, d'autant que la petite classe moyenne blanche, première victime de cette épidémie, ne figurait pas exactement parmi les priorités des dirigeants politiques. Un peu plus néanmoins que les populations pauvres et noires, premières victimes de ces drogues de synthèse, mais absentéistes notoires et pour lesquelles le gouvernement fédéral n'avait pas levé le petit doigt.
Sometimes I feel like through that door. Sometimes I feel like I wanna fly, reach out to the painted sky, a prisoner to the wind, a bird on the wing.
On se quitte sur Opium par le groupe Dead Can Dance. Merci beaucoup Xavier Paulette de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans les fumées d'Opium. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage L'Opium, une passion chinoise, publié chez Payot. On se retrouve demain pour une émission consacrée à l'économie du deal en France. En attendant, vous pouvez bien sûr écouter ou réécouter toutes nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.